Il était en résidence surveillée au Japon, il est à présent libre au Liban. C'est un nouveau rebondissement et de taille dans l'affaire Carlos Ghosn. L'ex-PDG de Renault-Nissan a lui-même annoncé qu'il avait pris la fuite direction Beyrouth dans des conditions qui restent à préciser. Une chaîne libanaise croit savoir qu'il est entré dans le pays avec un passeport français. Quand l'un de ses avocats japonais assure que ses trois passeports sont aux mains de ses défenseurs, avocat qui se dit abasourdi par la nouvelle, tout comme les autorités françaises par la voix de la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher sur France Inter, qui se dit surprise en ajoutant que Carlos Ghosn n'est pas au-dessus des lois. Quant à la CGT de Renault, elle veut espérer que toute la lumière sera faite. L'autre actualité de ce 31 décembre, c'est le réveillon, bien sûr, sur fond de grève des transports, notamment à la RATP, où la tension monte encore entre grévistes et non-grévistes. La direction de la RATP annonce l'ouverture d'une enquête interne pour intimidation. C'est dans ce contexte que les vœux d'Emmanuel Macron seront ce soir, bien sûr, particulièrement écouté et commenté. Dans ce journal également, l'Irak, où des milliers de manifestants ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Bagdad pour protester contre les raids aériens qui visaient dimanche les milices pro-iraniennes. La France, qui gagne à peu près 300 000 habitants chaque année, c'est le résultat du recensement effectué par l'INSEE de 2007 à 2017. Et ce sont les petites communes qui surtout grossissent. Et puis, le début du mercato d'hiver en foot, avec notamment le cas Olivier Giroud. Le buteur de l'équipe de France doit quitter Chelsea où il ne joue plus s'il veut rester en bleu. À 13h30, la Terre au carré, évidemment, c'est avec vous Élodie Font, bonjour.
Bonjour.
L'écoféminisme.
L'écoféminisme, aujourd'hui un concept encore méconnu. Nous allons nous interroger sur les liens entre l'écologie et le féminisme avec la chercheuse Myriam Bahafou. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque.
À tout à l'heure.
France Inter.
Il passera donc son réveillon au soleil au Liban. Le patron déchu de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, en résidence surveillée à Tokyo depuis le mois d'avril, s'est enfui à Beyrouth. Il l'a lui-même annoncé par un communiqué dans lequel il dit refuser d'être l'otage d'un système judiciaire partial où prévaut la présomption de culpabilité, où les droits de l'homme sont bafoués. Accusé de malversation financière, il avait été arrêté au Japon en novembre 2018 avant d'être libéré, mais avec interdiction de quitter le pays où son procès doit avoir lieu dans l'année qui vient. L'affaire a connu déjà plusieurs rebondissements, mais celui-là est sans doute le plus inattendu, puisque même ses avocats disent avoir été surpris. Bonjour Yann Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter au Japon. Alors ce qu'on sait ce matin, c'est qu'il est arrivé, Carlos Ghosn, il est arrivé à Beyrouth à bord d'un jet privé en provenance d'Istanbul.
Oui, c'est la seule certitude qu'on a, c'est qu'il est effectivement arrivé dans la nuit de dimanche à lundi depuis Istanbul. Le grand mystère, c'est comment il a quitté le Japon et comment il s'est rendu en Turquie. Alors, les autorités japonaises savent déjà qu'il n'a pas pris un vol régulier puisqu'elles n'ont pas retrouvé son nom, Carlos Ghosn, ni son nom, Carlos Bishara Ghosn, qui est son vrai nom sur ses documents officiels, dans les registres et les manifestes de vol, des vols qui sont partis depuis le Japon ces trois derniers jours. Alors, elles pensent qu'il est parti avec une fausse identité, un passeport falsifié, et probablement depuis un aéroport de petite taille où il n'a pas été contrôlé aussi strictement qu'il aurait été contrôlé dans les aéroports de Narita et d'Haneda, qui sont les deux grands aéroports internationaux de Tokyo.
Ah oui, parce que l'un des avocats de Carlos Ghosn, l'avocat japonais, juge inexcusable le comportement de son client et il dit que ses défenseurs ont en possession ces trois passeports. Hein.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que quand il est sorti pour la deuxième fois de prison en avril dernier, dans les conditions de sa libération sous caution, il a dû remettre ses trois passeports, le français, le brésilien et le libanais, à son avocat, à un de ses trois avocats, Hirona Kassan, qui les a mis dans son coffre-fort, dans son bureau d'Anzomon, pas très dans le centre de Tokyo. Et l'avocat dit, nous n'étions pas au courant de cette grande évasion. Lui, il l'avait vu mardi dernier, il y a 7 jours. Il ne l'avait pas ensuite contacté puisque c'était les vacances et Carlos Ghosn, c'est les vacances au Japon. Et donc, il dit, je n'ai pas participé à cette grande évasion et on n'a absolument pas remis ces documents que l'on devait garder dans le cadre de la libération sous caution négociée avec les juges.
Alors, une chaîne libanaise assure ce midi que Carlos Ghosn est entré dans le pays avec un passeport français, ce qui reste à vérifier. Alors, cela dit, Yann Rousseau, comment cette fuite est-elle possible? Y a-t-il une forme de complicité ou de laisser-faire du gouvernement qui serait embarrassé par ce dossier? C'est ce que certains laissent entendre ce matin.
Non, absolument pas. Il n'y a absolument pas une participation ou un intérêt du gouvernement japonais à intervenir sur ce dossier. Le premier ministre japonais Shinzo Abe et les principaux ministres ne se sont absolument pas impliqués dans l'affaire, qui donnait pour eux qu'ils avaient l'impression, ils craignaient que ça donne une mauvaise image de marque au Japon. Depuis le début, il y avait eu beaucoup de critiques sur le système judiciaire japonais. Et donc, ils ne se sont pas impliqués. Ils avaient un peu l'impression que c'était un peu une patate chaude, ce dossier. Et donc, c'est un dossier qui était traité juridiquement par le parquet de Tokyo. Le parquet de Tokyo n'a rien négocié avec Carlos Ghosn. Carlos Ghosn s'est enfui de lui-même. Depuis le début, il dit qu'il est victime d'un grand complot politico-industriel. Et c'est la suite de cette affaire. Il dit, puisque c'est un complot politico-industriel, puisqu'on m'a accusé à tort, puisqu'on a constitué des fausses preuves ou des documents illégaux contre moi, eh bien, je vais jusqu'au bout de ma logique et je refuse cette justice et je m'échappe avant le début du procès dans l'année. Il était à peu près sûr d'être condamné, Carlos Ghosn, à 99,97% des cas, surtout qu'il avait un énorme dossier face à lui, 4 mises en examen avec des documents très lourds, des preuves assez compliquées à expliquer, et donc il a préféré s'enfuir.
Yann Rousseau, correspondant de France Inter au Japon, merci beaucoup. Si Carlos Ghosn est presque devenu l'ennemi public numéro un au Japon, il reste en revanche très populaire au Liban, où il a grandi et dont il a gardé la nationalité, sa femme étant libanaise. Ce Liban dont il ne peut pas être extradé, Aurélien Colli, vous êtes le correspondant de France Inter à Beyrouth, où Carlos Ghosn est donc le bienvenu.
Véritable symbole du succès de la diaspora libanaise, Carlos Ghosn a toujours été accueilli à bras ouverts dans son pays d'origine, où il dispose d'une somptueuse villa à Beyrouth que la justice japonaise soupçonne d'avoir été achetée et restaurée aux frais de Nissan. Mécène et investisseur dans l'immobilier, les banques ou le vin, Carlos Ghosn a construit ici au fil des années un carnet d'adresses de VVIP. C'est ce que résumait l'année dernière au moment de son arrestation Sahar Al-Attar du magazine économique Le Commerce du Levant.
La classe politique libanaise le chouchoute à chaque fois qu'il passe. Ça joue libre. Il y a même un timbre qui a été mis à son effigie. Chaque fois qu'il vient, en tout cas, il est reçu en grande pompe dans les cercles politiques et financiers et économiques.
Des réseaux sur lesquels Carlos Ghosn a pu s'appuyer pour arriver jusqu'au Liban, puisqu'il a quitté le Japon sans ses passeports et sous un autre nom. Depuis qu'il a officialisé sa présence ici, hier, pas de réaction particulière. Carlos Ghosn le sait, il n'a rien à craindre ici. Aucune poursuite pénale contre lui au Liban, où les autorités l'ont toujours défendu. Quant aux Libanais, eux, ils sont plus divisés, alors que le pays traverse une crise économique et politique sans précédent, entre ceux d'un côté qui le voient comme homme providentiel pour redresser le pays, et de l'autre ceux pour qui il incarne au contraire les passe-droits d'une élite politico-économique que la rue libanaise dénonce depuis la mi-octobre. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Cette fuite au Liban qui a surpris même ses avocats prend de court bien entendu la justice japonaise, mais aussi les autorités françaises qui restent très discrètes pour l'instant. Seule la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher a réagi ce matin sur France Inter.
Nous avons un devoir de soutien consulaire à tous les ressortissants français, ce que nous avons appliqué, hein, parce que en réalité, on est intervenu de manière très précise,
très
pour faciliter les conditions de détention de Monsieur Ghosn.
Très consulaire, vous. Très consulaire. Vous avez fait ce que vous faites pour tous les citoyens.
Oui, mais parce que Monsieur Ghosn est un citoyen comme les autres, il n'est pas plus au-dessus des lois qu'il ne doit avoir un soutien consulaire comme tous les Français qui font face à la justice d'un autre pays.
Quant aux salariés de Renault qui sont en vacances pour cette fin d'année chez eux aussi, c'est la sidération qui domine, à l'image de la CGT qui veut espérer que toute la lumière sera faite. Son délégué central, Fabien Gache.
Il est évident que c'est pas un homme seul, aussi connu que lui, sans papier, a priori, qui aurait pu quitter le pays sans être embêté le moins du monde. Donc, il y a l'évidence qu'il a bénéficié d'aide. Mais il y a un fait évident, c'est qu'il se soustrait d'une part à la justice japonaise et d'autre part, y compris au jugement. Ça en rajoute sur les accusations à son encontre, hein, notamment de malversation, enfin j'en passe. D'autre part, ça montre un PDG qui persiste à se considérer lui comme apte à décider de ce qui est justice ou non. Tout comme d'ailleurs, il s'est considéré par le passé récent à pouvoir licencier des milliers de salariés sans autre forme de procès et considérant qu'il s'agissait là encore de justice. Ça en dit long sur des représentants d'entreprises à ce niveau qui se croient tout permis, tout simplement.
Le délégué CGT de Renault, Fabien Gache, au téléphone de Kevin Baudreau. À l'étranger, en Irak, des milliers de manifestants à l'assaut de l'ambassade américaine ce matin à Bagdad. Miliciens chiites pro-iraniens, ils participaient au cortège funéraire des 25 combattants tués dans les bombardements de dimanche. Et ils ont réussi à passer tous les barrages avant que les forces de sécurité irakiennes s'interposent, Christian Chéneau.
Les dernières frappes de Washington contre des milices chiites pro-iraniennes ont réveillé un sentiment anti-américain à fleur de peau chez les Irakiens. Une foule qui participait aux funérailles des 25 combattants tués dans ces raids aériens décidés par Donald Trump a réussi ce matin à pénétrer dans la zone verte, quartier ultra sécurisé de Bagdad, où est installée l'ambassade américaine. Scandant des slogans anti-américains, les manifestants ont jeté des pierres en direction de la représentation diplomatique la plus grande au monde. Les forces de sécurité irakiennes se sont interposées aux portes de l'ambassade et ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. L'ambassadeur américain et une partie du personnel diplomatique ont été évacués et mis à l'abri par mesure de sécurité. En voulant casser les milices chiites, Donald Trump a sous-estimé le nationalisme irakien qui rejette à la fois l'influence de Téhéran dans les affaires du pays, mais aussi celle des États-Unis.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
L'autre actualité de ce 31 décembre, c'est bien sûr le réveillon dans un contexte particulier. Cette année, en pleine grève des transports, le débat sur les retraites occupera sans doute au dîner de ce soir une partie des conversations, mais pas trop, c'est un sujet qui fâche. Et tout dépendra de ce que va dire le président de la République dans ses vœux aux Français. On va y revenir. Au 27e jour de grève, la mobilisation reste forte chez les conducteurs de train et de métro, dont certains acceptent mal d'ailleurs de voir des collègues travailler au point d'empêcher parfois leur prise de service. La RATP annonce avoir ouvert une enquête ce matin après qu'une conductrice a été victime d'intimidation, huée, sifflée, insultée, des agissements inacceptables pour la direction. La vidéo a été diffusée sur Twitter, Delphine Lefeuvre.
On y voit une femme escortée par des collègues, sifflée, huée, chahutée par d'autres, qui tente de rejoindre sa cabine à l'avant de la rame. Voilà la scène qui se déroule sur cette vidéo de 2 minutes, tournée hier matin dans le métro parisien. Elle est vendue, honte à toi, scandent certaines personnes présentes sur le quai. Ces images ont bien évidemment suscité de nombreuses réactions. La RATP d'abord condamne des agissements inacceptables. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, apporte quant à elle son soutien à la conductrice. Sur son compte Twitter, elle affirme qu'aucune cause ne justifie de telles insultes et un tel harcèlement. Et puis du côté des syndicats, l'UNSA RATP condamne également toute forme de violence. Nous respectons le droit constitutionnel de faire grève ou pas, nous dit ce matin un responsable syndical. Avec une nuance tout de même, selon eux, cette vidéo choquante résulte d'une situation tout aussi choquante qui n'a pas été filmée, qui a eu lieu quelques minutes auparavant. La conductrice aurait notamment proféré des insultes.
Et ce matin, des dépôts de bus ont été bloqués également par des grévistes. Le trafic reste perturbé aujourd'hui encore sur le réseau SNCF et RATP. La moitié des TGV et TER circulent. En moyenne, un quart des Transiliens seulement, trains de banlieue et RER, et des métros seulement aux heures de pointe jusqu'à 18h30. Pour le réveillon à Paris ce soir, seules les 2 lignes automatiques seront en service. Le service des bus de nuit est renforcé. C'est dans ce contexte donc qu'Emmanuel Macron présentera ce soir ses 3e vœux aux Français. On pourra l'écouter sur France Inter. Il ne devrait pas revenir sur le principe du système à points, tout en appelant au dialogue, à l'apaisement sur les aspects de la réforme qui peuvent évoluer. Beaucoup de choses ont déjà été révisées, Fabien Cazot, pour différentes catégories, policiers, militaires, pompiers, hôtesses et stewards, et même pour les danseurs de l'opéra.
Oui, sur l'âge de départ en retraite tout d'abord, pour les gendarmes, policiers, pompiers, surveillants pénitentiaires et contrôleurs aériens, ce sera 57 voire 52 ans. Pour les pilotes de ligne, 60 ans. L'âge remontera progressivement de 55 à 60 pour les hôtesses et stewards. Pour les personnels soignants, une meilleure prise en compte de la pénibilité physique devrait leur permettre de partir entre 60 et 62 ans, alors que dans la marine marchande, les spécificités permettant des départs avant 62 ans seront maintenues. Engagement du gouvernement.
Alors, autre sujet de crispation également, le montant des pensions dans le futur système.
Oui, les enseignants se verront proposer des revalorisations de salaire puisque leur retraite sera désormais calculée sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les 6 derniers mois. Il y aura aussi pour les policiers, en plus des mesures d'âge, une surcotisation du ministère de l'Intérieur pour maintenir l'équivalent des bonifications existantes. Alors que pour les cheminots, à la RATP, un meilleur calcul des droits a été proposé au syndicat sans succès jusqu'à présent. À la SNCF, mais aussi, vous le disiez, à l'Opéra de Paris, c'est la question de l'entrée dans la réforme qui fâche. Seuls les danseurs recrutés à partir de 2022 seront finalement concernés à l'opéra. contrat. À la SNCF, ce sont les cheminots nés après 1985. Les discussions entre syndicats et gouvernement achoppent toujours sur cette question des générations concernées par le basculement dans le nouveau système et sur l'âge dit d'équilibre à partir duquel le taux plein sera garanti. Ce sont les deux principales questions sur lesquelles Emmanuel Macron sera attendu ce soir par les partenaires sociaux.
Nous ne cherchons pas le conflit pour le conflit, a dit sur France Inter la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Nous cherchons à mener une réforme qui est nécessaire. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron doit parler des retraites pour le député de la France Insoumise Alexis Corbière. Il faut parler du dur. S'il fait du bavardage pour souhaiter à papy et mamie une bonne année, je pense, dit-il, que ça va insupporter les Français. De leur côté, une quinzaine de députés de l'aile gauche de La République En Marche réclament une alternative à l'âge pivot jugé injuste socialement pour tenir compte de l'ensemble des situations particulières. Quoi qu'il en soit, la sécurité sera renforcée autour des Champs-Élysées et des institutions ce soir, annonce à l'instant de la préfecture de police de Paris. Un périmètre de protection sera mis en place sur les Champs-Élysées à partir de 19h. La préfecture qui évoque aussi un contexte de menace terroriste élevée. 300 000 habitants de plus chaque année sur le territoire français, c'est le résultat du recensement publié par l'INSEE, un recensement de la population vivante en France hors Mayotte pendant les années 2007 à 2017 et qui chaque année a donc augmenté de 0,5%. À la fin 2017, la France comptait 66 524 000 sujets, sans compter les sujets de mécontentement, comme disait l'un de nos ancêtres journalistes, Henri Rochefort. Ce qu'on constate essentiellement, Béatrice Duguay, c'est que plus les communes sont modestes, plus elle gagne en habitants.
L'étalement urbain persiste en France. Les chiffres de l'INSEE l'illustrent effectivement. C'est dans les communes peu denses, c'est-à-dire celles de 200 à 3000 habitants, que la population augmente le plus, et plus précisément dans celles qui se situent à moins de 20 km des grandes agglomérations. Ces zones ont gagné 121 000 habitants ces 10 dernières années. Elles pèsent près d'un tiers de la population française maintenant, parce que c'est là qu'il y a de la place pour des familles modestes, c'est là que les appartements, les maisons, les terrains sont certainement abordables, que les mobilités aussi, les transports, se sont bien développés pour amener vers les pôles d'emploi et de services. Ces conditions de vie permettent à 13 départements à faible croissance démographique pourtant de voir leur population augmenter. Le Calvados, la Dordogne, la Somme, la Sarthe, la Mayenne par exemple. Reste quand même que près de 4 Français sur 10 vivent dans une grande ville où la densité de population s'accroît encore depuis 10 ans, surtout parce que le nombre de naissances est supérieur à celui des décès. Annemasse par exemple a gagné 54 habitants au kilomètre carré depuis 2007. Lyon et Montpellier 30, Toulouse 26, Nantes 24, Paris 20 et Bordeaux 17.
Ça fait pas beaucoup. Béatrice Duguay.
Non, ce sont des habitants au kilomètre carré gagnés.
Oui. Voilà. En sport, avec le début du mercato d'hiver, oui ça change tout, en sport, un mot de sport, avec le début du mercato d'hiver jusqu'au 31 janvier, tous les clubs d'Europe font un grand monopoly, les hôtels sont remplacés par des joueurs, ces joueurs qu'on veut acheter ou vendre sur le marché cette année sont en vedette notamment le Parisien Cavani ou le buteur des Bleus, Olivier Giroud, qui doit à tout prix quitter Chelsea s'il veut justement rester en bleu, Clément Comte.
En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Olivier Giroud ne rentre pas dans les plans de son coach Franck Lampard. Dans 5 mois, l'attaquant français a joué 7 matchs seulement, 282 minutes. La faute à ce jeune joueur, Tammy Abraham, 22 ans, c'est lui qui joue à la pointe de l'attaque chez les Blues. Et il cartonne déjà 12 buts en championnat cette année. Pour Olivier Giroud, il est donc temps de partir, d'autant que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, l'a mis en garde.
Évidemment, il le sait bien que pour le mois de mars... J'espère que sa situation sera meilleure parce qu'il a besoin, comme tous les joueurs, d'avoir une activité sur le terrain qui soit un peu plus importante.
Besoin de cela pour rester en équipe de France. L'objectif d'Olivier Giroud est très clair, l'Euro 2020.
Tout le monde est logé à la même enseigne, même si on a tous, chacun notre passé en équipe de France. Il faut être conscient qu'il faut avoir du temps de jeu pour venir en sélection. Maintenant... Voilà, j'espère que les choses vont évoluer.
Pour Olivier Giroud, c'est donc soit les Bleus, soit les Blues. Pour ce mercato, le nom du troisième meilleur buteur de l'équipe de France a été entendu à Lyon et à Bordeaux, mais aussi en Italie, du côté de l'Inter Milan.
Voilà, les Blues de Chelsea, parmi les clubs qui seront très attentifs également à ce mercato d'hiver. L'Olympique lyonnais, qui est toujours en quête de l'oiseau rare. C'est la fin de ce journal raccourci pour cause de grève à Radio France. Prochain rendez-vous sur l'antenne, la Terre au carré à 13h30. Tout de suite, le temps.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué, libre par nature.
Élodie Calac.
De la Bretagne et du Cotentin vers Poitou-Charentes, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, puis sur le sud du bassin parisien, beaucoup de grisaille. En prime, une nouvelle perturbation apporte quelques gouttes sur la Bretagne et sur les côtes de l'Atlantique. Ailleurs, le soleil est bien présent, il reste quelques coins de ciel gris tout de même. Du côté du Nord-Pas-de-Calais par exemple, vers l'Alsace, le Val-de-Saône, parfois en vallée du Rhône. Sur le Languedoc, nuages et éclaircies alternent, ils se décalent vers les Bouches-du-Rhône au fil des heures. Côté thermomètre, ça baisse un peu, 2 degrés à Colmar, 5 au Mans et à Dijon, 6 à Amiens, Paris, Lyon, 9 degrés à Nantes et à Bordeaux, 10 à Montauban, 12 à Nîmes, 15 pour Cannes. Demain encore des gelées, quelques degrés de moins l'après-midi, tout ça sous un ciel gris, sauf en montagne et sur le sud-est.